France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Juan Carlos, tout contre Franco. Épisode 6, boucler la boucle. L'année 1981 ne commence pas très bien pour le roi d'Espagne. Au début du mois de février, il effectue un déplacement au Pays Basque qui se déroule dans l'agitation. Des militants de l'ETA, le mouvement séparatiste basque, l'interpellent violemment. Et si la température va finalement retomber ce jour-là, le roi a pu constater que le pouls du pays était tout près de s'emballer. Car depuis que Juan Carlos est monté sur le trône, les revendications autonomistes ont redoublé. Et l'ETA a déclenché une série d'attentats qui visent à faire pression sur le pouvoir central. Le 6 février 1981, au moment du déplacement du roi dans cette province, un ingénieur de la centrale nucléaire de Lemoiz, près de Bilbao, est retrouvé mort après son enlèvement par le groupe terroriste. 7 jours plus tard, un membre de l'ETA, cette fois, allait mourir à la prison de Carabanchel à la suite de mauvais traitements. C'est donc un niveau d'affrontement élevé qui électrise le pays et met en danger le pouvoir, au point qu'on en parle également en France. Archive du 3 février 1981.
Aujourd'hui, deuxième étape, la plus importante, le souverain espagnol se rend à Guernica, là où pendant la guerre civile, des avions allemands avaient pour la première fois bombardé une population civile. L'ETA politique, c'est-à-dire les séparatistes modérés, se préparent à manifester, mais de manière courtoise. Notre envoyé spécial, Georges Tourlet, a rencontré l'un d'eux, il s'appelle Rosset.
Il faut bien voir la situation du Pays Basque, une situation historique très dure, hein, qui a vécu 40 ans d'oppression très très dure, et qui a beaucoup souffert, et ce que tout le monde constate maintenant, c'est qu'effectivement, la situation a changé, qu'il y a de véritables possibilités de changer les choses, mais en profondeur, et qu'il est commencé temps de construire ce pays, donc de lui donner de véritables solutions. Juan Carlos est un monarque constitutionnel, il a de véritables pouvoirs d'arbitrage, et d'accorder, entre autres, des mesures de grâce. Il y a actuellement entre 300 et 400 prisonniers, politique, 400 jeunes basques, on peut juger comme on veut les actes auxquels ils ont pu se livrer, on peut juger comme on veut telle ou telle branche de l'ETA, mais une chose est certaine, c'est qu'ici au Pays Basque, les gens sont très sentimentalement attachés au fait que ce sont des jeunes qui sont absolument pas rejetés par la communauté basque.
Sophie Babi, vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Université Bourgogne-Europe, spécialiste de l'histoire espagnole contemporaine. Ce qu'on entend dans cette archive, c'est que quelques jours avant le coup d'État qui va arriver le 23 février, il y a des heurts importants, il y a des tensions importantes. Est-ce que vous pouvez nous aider à remettre un petit peu en contexte justement cette archive pour qu'on comprenne bien quel est l'état mental de l'Espagne à ce moment-là ?
Oui, alors ce voyage de Juan Carlos au Pays Basque, à Guernica, donc dans cette ville iconique, non pas tant à cause du bombardement de 37, mais aussi parce que c'est le lieu emblématique du nationalisme basque, de l'identité basque. Et le premier voyage qu'effectue Juan Carlos au Pays Basque, donc en tant que roi. Et il se heurte là donc aux contestations, en fait, de la frange nationaliste séparatiste basque, en particulier de Herri Batasuna, qui est le bras politique de l'ETA.
Il a une position claire sur le Pays Basque, il s'est déjà exprimé sur la question de l'autonomie.
Alors, l'autonomie du Pays Basque est déjà accordée, en fait, à ce moment-là. Le statut de Guernica a déjà été approuvé, hein, mais cela ne calme pas les velléités séparatistes, en fait, indépendantistes de Herri Batasuna et de son bras armé. Mais bien sûr que le roi est le garant de l'unité de l'Espagne, la monarchie.
Il a priori pas trop pour plus d'autonomie ou encore moins pour l'indépendance.
Oui, alors l'état des autonomies, ce qu'on appelle l'état des autonomies, est en pleine construction, en fait, à ce moment-là. Donc, le degré d'autonomie, on va dire, des provinces n'est pas du tout encore réglé. Mais le mouvement indépendantiste basque n'a fait qu'accentuer sa pression sur le gouvernement après l'adoption du référendum de 1978. Et par exemple, dans l'année 1980, c'est la plus meurtrière de toute la transition, avec plus de 150 morts cette année-là, dont 100 par les mains de l'ETA. Et de l'autre côté, la répression policière est terrible aussi et aboutit, donc, comme vous l'avez dit en introduction, à la mort sous la torture capture d'un de ces militants de l'ETA.
Est-ce que vous avez le sentiment que on est dans une réplique de la guerre d'Espagne, encore une fois, avec ces mouvements-là, avec cette violence-là?
Alors, pas du tout. Là, au contraire, à ce moment-là, c'est l'ensemble de la société espagnole qui se dresse plutôt à l'encontre des violents.
Mais on peut imaginer que le terrorisme de l'ETA favorise l'extrême droite en Espagne et probablement les tenants de ceux qui vont bientôt, dans quelques jours, faire un putsch.
Oui, alors bien sûr, d'autant que l'ETA cible les forces de l'ordre. Cible l'armée, déjà, des généraux, des officiers de l'armée et des gardes civils et des policiers. C'est sa cible numéro un. Et de cibler des civils comme cet ingénieur, c'est assez nouveau, c'est un peu une nouvelle tactique de l'ETA. Donc les premières victimes, ce sont des forces de l'ordre, ce sont des militaires et qui voient cette violence ne pas cesser, mais au contraire ne cesser d'augmenter et qui accusent bien sûr le gouvernement et l'État d'être inefficace, d'être impuissant face à cette violence. Et de fait, l'État a l'impression aussi d'être inefficace et fait adopter une succession de lois antiterroristes, de mesures qui n'ont aucune efficacité, aucune prise pour l'instant sur l'ampleur de ce mouvement terroriste qui inquiète considérablement et qui bien sûr entretient la violence réactive de l'extrême droite et la tentation putschiste.
Donc il y a un momentum pour le putsch d'une certaine façon.
Voilà.
Des tentatives de putsch contre la démocratie au pouvoir, il y en avait eu plusieurs depuis l'arrivée de Juan Carlos. La plus connue est l'opération Galaxy en 1978, mais qui avait échoué. L'un de ses instigateurs, Antonio Tejero, n'avait alors été condamné qu'à 7 mois de prison, ce qui donnait l'impression que de tenter de renverser le pouvoir n'était finalement pas si grave. D'ailleurs, Tejero allait recommencer. Car une conspiration s'organise donc en ce début d'année 1981. Les rumeurs de l'imminence d'un pronunciamento se font de plus en plus insistantes à Madrid, au point que Juan Carlos est forcé de prendre la parole au début du mois de janvier. Son message s'adresse aux militaires pour leur dire qu'en aucun cas ils ne peuvent compter sur lui pour soutenir une quelconque action contre le gouvernement constitutionnel et que toute action serait considérée comme visant directement la couronne.
Yo quiero proclamar una vez más.
Le général Armada, pourtant, ne semble pas avoir reçu 5 sur 5 le message de son vieil ami le roi. Ou alors c'est que le message était contredit par d'autres messages tenus en privé, par exemple lors de cette fameuse soirée dans le chalet de Baquera Beret, on ne sait pas. Toujours est-il qu'Armada annonce aux autres putschistes que le roi est avec eux, ce qui laisse augurer du succès de l'opération. Armada, rappelons-le, c'est cet intime du roi, celui qui a été son précepteur, puis le chef de la maison royale, sa parole a donc du poids. Il n'a jamais été réellement en faveur de la démocratie et s'était opposé à la nomination d'Adolfo Suarez, jugé trop démocrate. Cette opposition lui avait d'ailleurs valu d'être éloigné du palais royal, mais les liens avec Juan Carlos n'avaient jamais été rompus. Le 23 février 1981, en fin d'après-midi, les Cortés sont en train d'élire leur nouveau chef de gouvernement. Suarez a été poussé vers la sortie et c'est Leopoldo Calvo Sotelo qui doit prendre sa suite avec pour mission d'achever la transition démocratique. D'ailleurs, c'est exactement au moment où il dit « Maintenant, la transition démocratique est achevée », c'est-à-dire à 18h23, qu'on entend s'élever une sorte de rumeur dans l'hémicycle, avec des cris qui font un peu penser à des exclamations de corrida. On entend dire « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » Et tout à coup, on voit, sur la gauche de l'hémicycle, le lieutenant-colonel Tejero, celui qui n'avait pas passé plus de 7 mois en prison, monter à la tribune avec un pistolet. Il arbore une moustache, ce qui lui donne un air de révolutionnaire sud-américain dans un album de Tintin. Côté dialogue, il n'est pas très inspiré non plus, puisqu'il ne trouve rien de mieux à dire que « personne ne bouge ».
Cet homme, pistolet au poing, est le colonel Tejero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui, pour la deuxième fois de sa carrière, tente un coup d'État. Dans l'Assemblée, c'est la surprise générale. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Les députés, baignés dans l'ambiance du terrorisme basque, ne croient pas encore au putsch. Ils hésitent, mais à la porte, 150 gardes civils mitraillettes à la hanche vont pénétrer, des hommes qui diront plus tard avoir été trompés sur la mission de leur chef. Assis à l'extrême du banc, l'ancien chef du gouvernement, Adolfo Suarez, va tenter de s'interposer. Puis un autre homme, regardez-le, le général Millardo, il va être brutalisé par les putschistes qui vont même lui porter un pistolet à la tempe. Pendant 17 heures, les députés vont ainsi rester couchés à terre, littéralement pris en otage. Au même moment, l'armée régulière prend position autour du bâtiment et à 20 heures, l'état d'urgence est décrété. L'armée consignée dans ses casernes, sauf à Valence, où le général Bosch a décrété l'état d'exception, cet homme serait à l'origine du coup d'éclat.
Sophie Babi, votre réaction à l'écoute de ce document ?
Oui, c'est une archive extrêmement célèbre et assez exceptionnelle, puisque la télévision filmait la séance d'investiture de Leopoldo Calvo Sotelo et donc a filmé ces instants du putsch.
Ça n'a pas été diffusé en direct, en revanche.
Non, après. Mais en tout cas, ces images sont extrêmement célèbres en Espagne et ailleurs dans le monde aussi. Hein, et c'est le bruit de ces tirs qui sont dirigés vers le plafond de la salle du Congrès. Alors, c'est la stupéfaction. Donc, l'Espagne est restée absolument pétrifiée cette nuit-là, dans l'attente de ce qui se passait. Et les députés aussi, qui se sont tous donc couchés à terre, à l'exception...
Ça, c'est une image qui est restée célèbre pour le coup, à l'exception des trois personnes qui sont restées debout.
Exactement, qui sont restées. Alors, Carillo est resté assis, Adolfo Suárez s'est levé aussi, mais surtout, Gutiérrez Mellado, dont le journaliste d'ailleurs escamote le nom, donc c'est dire à quel point il n'était pas connu à l'époque, qui est en fait le ministre de la Défense. Donc, il est le supérieur de ces gardes civils, de Tejero. Et donc, il appelle tout simplement les gardes civils à lui obéir, à l'ordre. Et ce vieux général-là, justement, dont l'œuvre avait été d'écarter les potentiels généraux putschistes des postes de pouvoir en les mettant à la retraite anticipée, par exemple, etc., dont la mission était de discipliner, de contrôler les forces militaires, voilà, est absolument en colère et hurle et réclame, en fait, à ce Tejero de se soumettre.
Donc, à part l'ETA dont on a parlé, quelles peuvent être les autres raisons, finalement, de ce coup ? Est-ce que il y a des problèmes économiques aussi en Espagne ? Est-ce que il y a l'idée que c'est un peu le dernier moment où une certaine frange de l'armée va pouvoir avoir l'occasion de le faire ? Quelles peuvent être les raisons ?
Oui, sans doute un peu tout ça. Hein. Alors c'est certain que la violence de l'ETA est une cause immédiate très très importante. Il faut bien imaginer ce que c'est que, par exemple, les funérailles de ces soldats, de ces officiers qui ont été tués, hein, qui se font des funérailles en catimini pour ne pas justement susciter un peu la mobilisation populaire et où pendant ces funérailles, effectivement, un certain nombre d'actes d'indiscipline se répètent, réclamant la tête d'Adolfo Suárez qui est en fait accusé d'être un traïdor, d'être un traître. Et Gutiérrez Mellado aussi est accusé d'être un traître aux idéaux du régime intérieur, un traître aux principes d'ordre et d'unité aussi. Donc la menace de l'unité sur l'unité de l'Espagne, hein, qui est celle de la menace séparatiste, est très forte. Et puis plus généralement, oui, sans doute, la sensation que tout le processus est en train de leur échapper définitivement. Et peut-être aussi un moment où ils pensent avoir l'appui d'une certaine classe politique. Alors ça, c'est tout ce qu'on appelle la trame civile du coup d'État qui n'a pas été encore complètement éclairci, hein, où à ce moment-là, effectivement, un certain nombre de milieux d'affaires et d'élites politiques considèrent qu'effectivement, le gouvernement est très inefficace et très impuissant à gérer la crise économique, la violence.
Même s'il a fait beaucoup de choses d'un point de vue institutionnel et politique, mais c'est la fin d'un cycle et on a peut-être le sentiment que cette chose-là a été faite et qu'il faut passer à autre chose.
Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle vraiment le desencanto, c'est-à-dire le désenchantement. Après les réformes, après institutionnelles, eh bien, la démocratie s'installe là et s'installe un peu dans un marasme. La mobilisation est bien moins grande, il n'y a plus de manifestations, plus de grandes révoltes syndicales, et on découvre que le quotidien, il n'est pas forcément si rose tout le temps, et qu'il y a encore des difficultés à résoudre, et que le gouvernement s'essouffle dans, effectivement, la gestion quotidienne. Et Adolfo Suárez est ciblé comme étant le responsable numéro un de ce désordre. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre là, en fait, au moment du changement de leader politique, hein, à la tête du gouvernement, que saisissent, en fait, tous les mécontents pour effectuer ce putsch.
Mais nous n'avons pas terminé de raconter le déroulé de ce coup. Souvenez-vous, les militaires qui se sont introduits dans le Parlement ont reçu l'assurance par le général Armada que le roi les soutiendrait. Armada est confiant dans la réussite de son plan. Il s'attend à ce que le roi l'appelle au téléphone pour lui demander conseil quant à la marche à suivre. Là, il a prévu de proposer au souverain de venir le rejoindre. Son idée est que le simple fait de se rendre à la Zarzuela sera le signe que le monarque soutient le pronunciamento. Mais Juan Carlos, lui, se méfie. Et quand il communique avec Armada ce soir-là, il trouve sa voix bien calme, comme si le général n'était pas si étonné que cela de ce qui était en train d'arriver. Juan Carlos lui ordonne alors de rester là où il se trouve et il refuse de l'accueillir au palais. Ce que fait le roi ensuite va beaucoup compter pour le futur. Il appelle en effet un par un les chefs militaires en région et leur intime l'ordre de rester dans leur caserne. Puis il fait venir à la Zarzuela une équipe de télévision et dans la nuit s'adresse à la nation.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Sophie Baby, est-ce que vous diriez que l'attitude du roi cette nuit-là a tout simplement fait échouer le coup d'État et que s'il avait eu une attitude différente, probablement que l'histoire de l'Espagne aurait également été très différente?
Alors c'est certain que s'il avait soutenu les putschistes, on ne sait pas ce qui serait passé après. Ça aurait été différent. Mais en l'occurrence, il s'est clairement rangé du côté de la démocratie et de la Constitution et n'a absolument jamais soutenu ce coup d'État et donc a rappelé à l'ordre l'ensemble des généraux qu'il connaissait souvent personnellement. Et c'est là, souvent, on dit que c'est l'un des avantages de Juan Carlos, c'est d'avoir grandi en Espagne et d'avoir fait notamment toute cette formation militaire aux côtés donc des chefs militaires du jour et que donc il avait une proximité avec eux et que la loyauté finalement de l'armée, elle était plus à l'égard de la monarchie, de la figure de Juan Carlos qu'à l'égard finalement de ce processus démocratique. Et donc il a pu en appeler à ce moment-là la loyauté de ses généraux. Mais surtout, par là, en fait, Juan Carlos gagne sa légitimité démocratique. C'est-à-dire une légitimité qu'il n'avait pas encore. Il avait certes la légitimité dynastique, alors qu'il n'a pas eu tout de suite.
Il y avait le référendum quand même aussi qui a joué.
Alors le référendum était, attention, c'est un référendum constitutionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, les Espagnols ont voté une constitution qui établissait une monarchie parlementaire mais qui établissait surtout un régime de liberté et de démocratie. Ils n'ont pas eu de référendum sur le choix entre monarchie et république. Il n'y a pas eu de référendum sur la nature du régime, même si l'opposition avait accepté le régime monarchique, en particulier le parti communiste, Santiago Carrillo, qui est resté assis à ce moment-là, avait accepté le drapeau sang et or de la monarchie en échange de sa légalisation.
Mais alors c'est quand même très étonnant toute cette histoire et la façon dont Juan Carlos se positionne par rapport aux militaires. Il y a donc cette proximité très grande avec notamment le général Armada, le fait qu'il l'a vu longuement avant, quelques jours avant le coup d'État, le fait que Armada a l'air persuadé, le fait-il exprès ou non, est-ce ce qu'il dit aux autres militaires ou pas, que le roi va soutenir le coup d'État, tout cela quand même pose beaucoup de questions sur l'espèce d'ambiguïté dont on a l'impression que Juan Carlos a joué pour, je ne sais pas, essayer de ménager tout le monde. Quel est votre point de vue, votre intuition, votre sentiment là-dessus?
Ce qui est certain, c'est que dans ce moment de crise politique qui a précédé le coup d'État, il y avait des discussions entre les hommes politiques, entre les milieux d'affaires, aussi avec le roi, pour savoir un peu quel allait être l'avenir, comment on allait s'en sortir. Il y avait des propositions, par exemple, de gouvernement de coalition qui étaient dans l'air du temps. L'idée de faire une opération à la De Gaulle en 58, qui était très aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire pour redresser un peu le pays, remettre un homme fort à la tête du pays. Bon, donc c'était dans l'air du temps un peu de ce type d'opération, pas forcément militaire, mais voilà, de redressement du pays.
D'un point de vue opérationnel, il y a aussi des choses qui étonnent, c'est-à-dire pourquoi ne pas avoir tout simplement coupé la ligne téléphonique du palais? Comment est-ce que la télévision peut partir en pleine nuit pour faire l'interview du roi d'Espagne? Tout cela paraît rétrospectivement étrange.
Oui, alors après, tous les soldats, tous les gardes civils, tous les régiments n'ont pas soutenu ce coup d'État. Donc, il était assez facile d'imaginer négocier avec un certain nombre, notamment avec ceux qui tenaient RTVE, de négocier
la
avec,
télévision espagnole.
Voilà, avec le bâtiment de la télévision pour laisser partir une équipe. Une fois qu'il avait bien compris que le putsch, soit il réussissait immédiatement, soit c'était un échec annoncé en quelque sorte.
Le 1er mars 1981, une semaine après que la fragile démocratie espagnole a été à ce point mise en danger, Juan Carlos décide une nouvelle fois de temporiser.
Prenant la parole à Saragosse devant ses camarades de promotion de 1956, le roi était fort prudent, invitant tout le monde, militaires et hommes politiques, du gouvernement ou de l'opposition, à faire preuve de maturité et de responsabilité. « Adaptez vos conduites respectives », a affirmé le roi, afin d'obtenir l'ordre, la sécurité et le bien de l'Espagne. Juan Carlos l'avait dit au leader accouru pour le féliciter au lendemain du coup de force de lundi. Pas question de se lancer dans une sorte de chasse aux sorcières qui pourrait provoquer une réaction de l'armée tout entière. Le coup de force a échoué, mais on sait maintenant qu'il s'agissait d'un véritable complot impliquant quelques-uns des chefs militaires les plus haut gradés et les plus proches du roi. Pour tout le monde, et d'abord pour Juan Carlos, cette affaire a valeur d'avertissement. Ce n'était peut-être pas la répétition générale dont parlent les plus pessimistes, mais la possibilité d'un nouveau coup de force existe bien. Pour écarter ce risque, Juan Carlos sait qu'il dispose d'une marge de manœuvre fort étroite. Il ne peut pas ne pas épurer une armée qui a montré, bien sûr, qu'elle était peu sûre, mais il est condamné à le faire en douceur.
Alors une fois de plus, pas de purge ou une purge très limitée suite à un coup d'État tout de même spectaculaire. Il s'agit encore d'essayer de ménager tout le monde de la part de Juan Carlos. Comment on peut expliquer ça ?
Oui, alors il y a quand même un procès qui a lieu l'année suivante, entre février et juin 1982. Mais c'est un procès qui est dévolu à la justice militaire, comme le veut la législation. Et donc c'est un procès qui se solde quand même par des condamnations significatives, enfin surtout pour Tejero, qui s'en sort avec 30 ans de prison.
Oui. Mais les deuxième fois, il finit par rester en prison.
Voilà, mais les autres, beaucoup moins. Donc, en fait, le gouvernement, à ce moment-là, de Calvo Sotelo, fait appel auprès du tribunal suprême pour que ce soit la justice civile qui ait le dernier mot. Pour que ce soit la justice civile qui prenne le pas sur la justice militaire et considérant que, justement, les sentences ont été trop clémentes de la part de la justice militaire et pour alourdir ces sentences. Et ce sera le cas, effectivement, en avril 1983, avec notamment Armada, qui avait été condamné à rien du tout lors du premier procès et qui finit avec 30 ans de prison. Alors oui, il s'agit toujours, bien sûr, alors la question de l'épuration, la transition s'est faite sans épuration. C'est le principe même de la transition. La continuité et la non-épuration des corps de police, des corps de la garde civile, des corps d'armée, des magistrats, de tous les fonctionnaires en fait. L'absence d'épuration. Donc pourquoi faire une épuration maintenant ? Cela dit, je vous l'ai dit, le ministre de la Défense avait veillé à tenter d'écarter les plus dangereux, les plus récalcitrants, alors avec peu de succès puisqu'il y a ce coup d'État qui a quand même eu lieu, mais tenter de contrôler quand même cette armée dont certains éléments étaient totalement hostiles et contraires à la réforme. Mais effectivement, il n'y aura pas de purge supplémentaire derrière, mais en revanche des réformes qui viendront tardivement, c'est-à-dire que c'est le gouvernement socialiste qui mettra en œuvre la réforme des corps armés en 1986.
Liberté, libération, outrance, provocation, l'Espagne s'éclate dans les défilés de mode où l'on se presse. Prototype de ceux qui se montrent à Madrid, les sœurs Moriarty, 58 ans à L2, et une galerie. On y trouvera au hasard un sculpteur sur poil humain, un poète décadent, un chanteur décalé, un auteur de tango revisité, un peintre halluciné, hallucinant et un costume cravate.
Vous n'avez pas le même costume qu'eux ? Est-ce que c'est pas gênant ?
Je n'ai pas le même costume parce que je viens de travailler dans les ministères. Mais normalement, je ne vais pas comme ça avec une cravate. Mais de toute façon, on paie la liberté, la conquête de la liberté. Ça donne la permission d'aller comme on peut aller avec cravate, on peut aller sans cravate, on peut aller habillé ou ce que vous voulez.
Espagne 1985, boîte de nuit, les 10 ans de la démocratie, les avocats de permanence dans les commissariats, la torture au Pays Basque, les 3 millions de chômeurs, mais pourtant toujours la vie à pleines dents. Espagne 1985, Franco, Hitler et Mussolini en vitrine.
C'est un détail tout à fait naïf et ça veut dire que personne, peut-être pour vous, vous le voyez, ça vous semble un peu choquant, mais tandis que pour les Espagnols, personne ne va s'étonner de voir Franco dans une vitrine. C'est l'histoire.
Et puis ici aussi, on a ces radios libérées. Le titre de cette émission, Madrid me mata, Madrid me tue.
Franco est mort il y a 10 ans. Quel est votre commentaire ?
Franco est ressuscité.
Sophie Babi, que vous inspire cette archive d'Antenne 2 qui date de 1985, où il est question de 3 figurines de dictateurs dans une vitrine notamment.
Oui, alors c'est très significatif, c'est très intéressant de mettre cette archive parce qu'on voit que la transition, c'est pas que de la violence ou des réformes institutionnelles et politiques et un roi, mais c'est avant tout l'éclosion de la liberté et l'émancipation des mœurs, c'est la possibilité d'expression artistique multiple, déjantée, queer, des manifestations féministes, homosexuelles, transsexuelles, etc. Donc toute cette explosion en fait culturelle, artistique et des mœurs se traduit par ce mouvement de la Movida qui a traversé les frontières, hein, qui est très connue en France. Alors l'apparition de ces figurines, qui je ne sais pas lesquelles elles sont, elles ont l'air d'être plutôt comiques et ironiques. Après, les badges, les portraits, les cartes postales, etc., à l'effigie de Franco, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours.
Il y en a toujours.
Faisons un grand bond dans le temps. À partir des années 2000, l'image du monarque se fissure. Des scandales d'argent et sa vie de coureur le rattrapent. Une photo le montrant avec sa maîtresse devant un éléphant tué lors d'un safari au Botswana fait polémique, d'autant plus que l'Espagne traverse une crise économique grave. Puis on apprend qu'il a reçu des centaines de millions de dollars sur un compte offshore en provenance d'Arabie Saoudite. Sous pression, il abdique en faveur de son fils le 18 juin 2014.
J'ai décidé de mettre fin à mon règne et à abdiquer la couronne d'Espagne, de manière à ce que le gouvernement et le Parlement puissent mettre en place une succession efficace conformément à la Constitution. Le prince des Asturies a la maturité, la préparation et le sens des responsabilités nécessaires pour assumer le rôle de chef d'État et initier une nouvelle étape d'espoir dans laquelle se combineront l'expérience que nous avons acquise et l'énergie d'une nouvelle génération.
Sophie Babi, où en est la monarchie espagnole ?
Ah bah, elle se porte bien mieux aujourd'hui qu'en 2014, ça c'est sûr, au moment de l'abdication du roi. Cette abdication, c'est un dernier geste pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé de la monarchie qui est en chute libre, hein, avec un indice de confiance à ce moment-là de 3,7 sur 10, hein, très 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 bas. On a souvent dit en fait que l'Espagne était plus juan-carliste que monarchiste pendant la transition, etc. Ce qui n'est bien sûr plus le cas dans les années 2010 avec les scandales et les frasques du roi qui décrédibilisent définitivement la figure de Juan Carlos. Et aujourd'hui, oui, je pense que Philippe VI, son fils, avec sa femme Laetitia, et puis ses deux filles, hein, qui sont les héritières, enfin surtout Léonore, qui est l'héritière présumée suite à un changement de constitution, hein, pour accepter justement une fille comme héritière, est en train de moderniser un peu l'image de la monarchie, de la féminiser. Donc, les taux de confiance ont largement remonté, hein, vis-à-vis de la monarchie. Aujourd'hui, l'institution monarchique se porte un peu mieux qu'il y a 10 ans, mais reste que l'Espagne est aussi très républicaine, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas vraiment de sondage totalement fiable, hein, mais que près de 40% quand même de la population serait prête à un changement de régime et à accepter une république. Donc c'est-à-dire que c'est une monarchie qui est utile, hein, qui sert à maintenir l'unité de l'Espagne, qui sert de repoussoir aussi à pas mal de groupes politiques, hein, notamment en Catalogne, mais qui sert finalement, qui est utile à faire fonctionner ce pays, mais de là à dire que l'Espagne est profondément monarchique, c'est sûr que non. Voilà. Mais est-ce qu'elle est profondément anti-monarchique ? Non plus.
L'histoire de la transition démocratique espagnole est loin d'être univoque. Et il est difficile d'y voir totalement clair dans les motivations profondes des différents protagonistes. Celles de Juan Carlos proviennent à la fois d'un désir de voir advenir la démocratie en Espagne, mais elles sont aussi le fruit de son histoire personnelle et familiale, ainsi que du désir de voir la monarchie perdurer dans son pays. Toujours est-il que, à plusieurs reprises, ce roi, formé par Franco, a su prendre les bonnes décisions à des moments particulièrement instables, durant ces heures où un signe, un discours, un symbole ont pu changer le destin de son pays. Le 23 février 2026, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez annonce que 153 archives relatives au coup d'État de 1981 vont être déclassifiées. De l'étude de ces conversations et archives sonores, il apparaît que Juan Carlos n'a pas été compromis dans le putsch. On peut se demander alors si la publication de ces documents changera la situation personnelle d'un homme qui est aujourd'hui une sorte de paria dans sa propre famille et dans son pays. Décidément, l'histoire se répète, car comme lorsqu'il était enfant, le voilà de nouveau en exil. Il vit à Abu Dhabi la majeure partie de l'année et, comme du temps de sa jeunesse, c'est au Portugal et non pas en Espagne qu'il réside lorsqu'il est en Europe. Et puis, tout comme son père avant lui, il a été remplacé de son vivant par son propre fils. C'était Juan Carlos tout contre Franco, une série en 6 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Nathalie Salle. Attachée de production Lily Corner et Fanny Petit. Prise de son Delphine Baudet, mixage Emmanuel Armin. Documentation INA Inès Barja, documentation musicale Antoine Villose.
Viva la 15e Brigada. Viva la 15e Brigada. Que se ha cubierto de gloria. Ay, Carmela, ay, Carmela. Que se ha cubierto de gloria. Ay, Carmela, ay, Carmela.